Et celle qui est devant moi et qui a un beau sourire, elle s'appelle Caroline Dubuc. Elle est productrice au contenu, recherchiste, intervenante et co-autrice du livre Kitsch. Et elle vient nous parler de Kitsch Québec, qui est une série documentaire qu'on peut voir depuis le 6 décembre sur les ondes d'Historia. Bonjour Caroline.
Bonjour, ça fait grand plaisir d'être ici.
Merci, nous aussi, ça nous fait grand plaisir de vous accueillir. Alors, la première question, c'est en fait la question du premier épisode. Qu'est-ce que le kitsch? Quelle est la meilleure définition du kitsch, Caroline?
Alors, kitsch, c'est un vieux terme qui, pour nous, ce qui est très important de dire, là, pour Roxane Arsenault qui a écrit puis qui a fait ce projet-là et moi, ouais. C'est pas du tout péjoratif. Kitsch, c'est pas kitten, c'est pas la façon dont on l'entend. C'est quelque chose qui est souvent véhiculé, mais pour
nous... Oui, quand on dit kitsch, souvent on pense kitten, mais ça n'a rien à voir.
En fait, nous, on veut redonner des lettres de noblesse à ça. On veut parler des intérieurs qui sont complètement immersifs, qui nous amènent ailleurs dès qu'on y met le pied. Ce sont des lieux qui... le kitsch, pour nous, ça joue sur l'excès. Il y en a plus, puis il n'y en a jamais assez. Donc, on est dans la surabondance, la surcharge. On joue avec les textures qui sont vraiment variées. On joue avec les couleurs qui sont un peu partout. On joue avec les proportions. C'est, je ne sais pas moi, une orange qui est absolument gigantesque.
On pense à l'orange julep.
On pense directement à l'orange julep. Ou encore quelque chose de miniature qui des fois est gros, comme un petit cheval ou encore...
Une tour Eiffel.
Une tour Eiffel qui est une salière. Ça peut être un bel exemple. Et on joue dans l'imitation aussi. C'est souvent des... quand on pense aux bars et aux restaurants, ce qui est ce qu'on a documenté dans nos projets, on pense à des décors qui peuvent rappeler d'autres pays, par exemple.
Et la série Kitsch Québec est tirée du livre du même nom que vous avez coécrit avec Roxane Arsenault que vous mentionnez. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du livre avant de parler de la série?
Oui, le livre, c'est une très belle histoire. C'est une adaptation du mémoire de maîtrise de Roxane qui a travaillé là-dessus plusieurs années. Je l'ai aidée.
Maîtrise sur le kitsch.
Maîtrise, oui, effectivement, sur le kitsch. Elle a fait ça à l'UQAM pendant assez longtemps. Et Fides a approché Roxane pour faire une transformation. Oui, ouais. Je m'excuse.
Non, ça va.
J'y vais comme ça familièrement. Mais elle a approché Roxane pour une transformation de son mémoire en livre, en étendant le projet un peu à l'échelle de la province pour couvrir différentes régions. Et c'est de cette façon-là, moi, que je suis arrivée dans le projet plus formellement. On a fait ce livre-là ensemble. Ça nous a pris 3 ans de recherche. On a étendu tout un filet avec des chercheurs associés. On a fait affaire avec des stagiaires. On a lancé des antennes à plein de sociétés, fédérations d'histoire au Québec. Puis on a mis en place une carte interactive du patrimoine kitsch. Ça s'appelle patrimoinekitsch.com. On est constant dans nos termes.
Et, moi, ça s'écrit kitsch.
K-I-T-S-C-H.
Parfait. Ouais. C'était pour l'auditeur, parce que je l'ai devant moi le mot, là. Mais
on ne l'écrit pas souvent, mais de plus en plus, on va l'écrire maintenant.
Oui.
Donc, cette carte interactive nous permettait de voir qui, parce que c'est les gens qui mettent les lieux sur la carte, donc qui a des nouvelles informations à nous transmettre. Donc, on connaît pas tout le Québec, puis les gens ont des souvenirs souvent associés à leur région, leur mm-hmm. village d'origine, leurs habitudes familiales.
Avez-vous reçu beaucoup de réponses?
On a vraiment reçu beaucoup de réponses. Ça a été un succès fou. La carte n'arrêtait pas de crasher, je m'excuse pour le terme, au début parce qu'on n'avait pas mesuré l'enthousiasme que ça avait. Et là, ça nous a donné des ailes un peu pour développer le projet avec, comme je disais tout à l'heure, notre filet de chercheurs associés. On a pu monter un livre qui recense 250 lieux à travers la province. Et pour nous, c'était important, on n'est pas dans la nostalgie, mais c'était important de documenter ça parce que tous ces lieux-là sont souvent ouverts par des nouveaux arrivants au Québec. Donc, ça parle du contexte socio-historique mm-hmm. Du Québec, de la province.
Il y a vraiment un lien entre l'immigration, l'intégration et le kitsch.
Il y a absolument un lien direct. Il y a un lien direct parce que là, c'est la présentation de nouveaux arrivants qui se présentent aux Québécois en utilisant sa culture comme un espèce de véhicule. Donc, ils vont présenter dans un restaurant leur culture au niveau de la cuisine, au niveau de la musique, au niveau des décors, parfois au niveau des costumes. Et là, c'est la rencontre de l'autre, puis ça a créé vraiment des lieux immersifs assez, assez incroyables. Et on en a partout à travers la province.
Et donc, la série propose 8 épisodes. Ça commence par « Qu'est-ce que le kitsch ?» Sinon, qu'est-ce qu'on trouve?
Sinon, on trouve des épisodes qui vont parler de l'Afrique du Nord, on va parler de la France. Alors, chacun des épisodes traite d'une région ou d'un pays. Alors, il y a aussi la Chine, la Grèce, l'Italie.
La Polynésie.
Oui, la Polynésie. Ben, en fait, c'est le Tiki, pas Polynésie qu'on appelle. C'est pas un pays ni une région du monde. C'est un monde un petit peu fantasmé qui est spécial, mais tout le monde... Quand on dit tiki, tout le monde...
Le pop polynésien.
Oui.
C'est comme ça que l'épisode...
C'est le terme le plus officiel. Puis un autre traite du rustique, ce qu'on appelle le vernaculaire rustique. Ça, c'est assez spécial parce que c'est l'auto-représentation des Québécois par les Québécois. À un moment où le Québec s'ouvre sur le monde, disons, pendant l'expo, beaucoup de voyageurs de l'étranger sont ici puis veulent voir ou veulent vivre l'expérience québécoise. Et là, il y a des restaurants comme les Filles du Roi, par exemple, la traite du Roi, oui, à Québec, qui vont mettre en scène le patrimoine québécois. Alors, on est servi par des damoiselles qui sont en costume d'époque. On va aller chercher l'eau à la pompe.
Les ceintures fléchées.
Oui, c'est ça. On va utiliser vraiment les clichés de cette façon-là, des stéréotypes, en quelque sorte, pour présenter un peu les traditions québécoises. Puis, il y a des lieux magnifiques comme le Gobelet, qui était un restaurant-taverne sur le boulevard Saint-Laurent, près de Crémazie, qui existe encore d'ailleurs, vous pouvez aller, ça s'appelle Spazio maintenant. Ça a changé de fonction carrément. Okay. C'est un magasin d'antiquités, mais ils ont gardé quand même le décor du Gobelet, fait que les nostalgiques ou ceux qui sont curieux peuvent aller puis voir les différentes salles, parce qu'il y avait une salle, c'était une érablière, il y avait une salle, c'était un peu comme une taverne, il y avait une salle, c'était plus comme, je ne sais pas moi, une auberge française ou de la Nouvelle-France plutôt.
Et vous évoquez les clichés, les stéréotypes qu'on utilisait au Québec, mais est-ce que c'est comme ça, est-ce que c'est toujours associé au kitsch, l'utilisation des clichés et des stéréotypes pour créer un lieu?
C'est fréquent, effectivement, c'est fréquent. Nous, les lieux qu'on a documentés sont à partir de 1950 jusqu'à, grosso modo, 1980. Et à cette époque-là, le Québec, ben, en fait, l'information, le niveau d'information que tout le monde a n'est pas le même. On n'est pas inondé d'infos comme on a aujourd'hui. Et la curiosité des Québécois faisait en sorte qu'on réagissait très, très bien aux stéréotypes. Et souvent, pour présenter une culture, on va... Les nouveaux arrivants, qui sont les entrepreneurs, les propriétaires de ces restaurants-là, vont jouer sur ces codes-là en mettant, disons, un moulin à vent, un intérieur crépi de blanc avec du bleu, des filets de pêche. Là, je vous amène en Grèce assez facilement. Si je vous parle de pagode en rouge laqué avec du noir, un peu d'or, puis un oiseau fantastique, là, on est en Chine. Fait que ces codes-là, encore aujourd'hui, persistent toujours et puis faisaient appel assez facilement là, à l'imaginaire des gens qui se sentaient à l'aise d'aller dans ces lieux-là pour vivre une belle soirée totalement dépaysante.
Est-ce que vous avez visité beaucoup de lieux pour écrire le livre et créer la série documentaire, Kitsch Québec?
On a vraiment visité tous ceux qu'on a pu visiter.
Parce qu'il en reste pas 250. Là.
Non, il en reste vraiment plus beaucoup.
Malheureusement.
Effectivement. Mais encore là, on n'est pas dans la nostalgie. Non. On voulait présenter qu'est-ce qu'il y a eu. Puis, quand on a sorti le livre, 250 lieux avaient été documentés. Il en restait peut-être 15 % après la pandémie, qui était l'année suivante. Il y en a plusieurs qui ont fermé, des propriétaires qui ont tenu à bout de bras un restaurant pendant 20, 25, 30 années. On peut pas les plaindre de vouloir, à un moment donné, peut-être...
Peut-être qu'ils ne voulaient pas, mais il n'y avait plus le choix, là.
Oui, certains ne voulaient plus, certains n'avaient plus le choix. Ouais. Effectivement, il y a la question de la reprise de ces lieux-là, le repreneuriat qu'on appelle, qui fonctionne très bien dans certains cas, mais qui n'est pas toujours là. Tu sais, ça prend à peu près 5 ans pour faire la transmission d'un fonds de commerce à un autre propriétaire. Et tout le monde ne l'avait pas prévu, mm-hmm. disons, cette chose-là. Il y a des exemples fantastiques qui fonctionnent bien, comme le Grec à Trois-Rivières, qui est là depuis 3 générations. Wong, qui est à Québec, un restaurant chinois sur la rue Buade. Stephen Wong, aujourd'hui, c'est le petit-fils du propriétaire d'origine. Il y a comme ça des commerces qui continuent de fonctionner.
Et de tous les lieux que vous avez visités, Caroline Dubuc, lequel remporte la palme du plus kitsch?
Oh, demandez-moi pas d'en choisir un seul.
En tout cas, celui où vous aimeriez aller retourner là, pour prendre un verre, mm-hmm. manger.
Oui. Bien, je vais tabler évidemment sur les lieux qui existent encore, parce que la meilleure façon de faire vivre le patrimoine kitsch, c'est d'y aller. Ce sont des commerces, donc donnez-leur votre business d'une certaine manière. Et il faut toujours aussi mentionner votre appréciation du décor, parce que ça donne des signaux aux propriétaires que c'est apprécié. Donc, moi, je propose d'aller prendre un verre peut-être au Coconut Bar à Trois-Rivières.
Le Coconut Bar à Trois-Rivières,
qui est
fantastique
ah, oui? Lieu tiki. Il y avait un livre qui s'appelait Tiki Road Trip. C'était les États-Unis et l'Amérique du Nord. Et le Coconut est un tiki mecca. Ça, c'est la plus haute cote.
Le tiki suprême.
Tiki suprême. À Québec, on pourrait aller manger au parmesan.
Oui, ça existe toujours.
Le parmesan existe toujours. Restaurant italien dans le Vieux-Québec. Et là, on a comme 4000 petites bouteilles qui représentent plein de choses différentes qui composent le décor. C'est fantastique.
Quelquefois, on peut dire, oh, c'est un restaurant touristique, mais c'est plus que ça.
Ben, c'est plus que ça, effectivement. Ouais. C'est, d'ailleurs, ils viennent aussi de changer de propriétaire et il y a quelqu'un de nouveau là, qui est là derrière l'administration qui amène toute une nouvelle dynamique et
Ça vaut la peine d'aller au parmesan.
Qui donne un nouvel air à ça. À Montréal, on pourrait aller manger un couscous à la couscoussière d'Ali Baba, qui est sur Sainte-Catherine, tout près de Papineau. Là, vous allez voir une grotte faite de papier mâché avec des lumières scintillantes de toutes sortes de couleurs.
Mais c'est le restaurant où on a eu notre party de Noël l'an dernier.
Fantastique.
Avec une danseuse
orientale.
Mais qui n'était pas vraiment orientale. Oui, mais ça arrive. Hein, il y en a eu pas mal de danseuses québécoises dans des restaurants.
Vous allez en découvrir d'ailleurs dans l'épisode sur l'Afrique du Nord exactement ce cas de figure.
Oui,
je vous invite à le regarder ce
vendredi
d'ailleurs.
Alors, la couscoussière sur Ontario, hein, c'est ce que vous avez dit. J'étais là l'année passée. Ah oui, Sainte-Catherine, coin Papineau.
Près de Papineau, effectivement.
Okay. Et est-ce que vous pensez, Caroline, que le kitsch est voué à disparaître?
Je ne crois pas, non, vraiment pas, parce que c'est lui, merci Flo. Là, ils ont toujours existé. C'est notre perception par rapport à eux qui vont changer, mais encore aujourd'hui, il y a des chaînes, je vais nommer la chaîne Petros, qui est une chaîne de restauration grecque, qui fait entièrement ce qu'on qualifierait de kitsch, des décors immersifs qui utilisent les codes de ces pays-là. Ils ont, je pense, 4 restaurants à Montréal. Ils ouvrent d'autres antennes, là, mais allez les voir, c'est à la fois excellent et vraiment une
grec.
Super belle ambiance.
Oui, je connais bien. Je suis allée dans le quartier Griffintown.
Oui.
Oui, on se sentait complètement en Grèce. Et pour vous, le préserver le kitsch, c'est essentiel? Qu'est-ce que ça nous apporte?
En fait, ces lieux-là qu'on a documentés et dont on parle dans la série, c'est important parce qu'ils parlent de notre histoire, ils parlent de l'immigration, de l'intégration des immigrants au Québec, le travail qu'ils ont fait, qu'ils ont apporté à l'économie québécoise, à l'ouverture aussi du Québec à l'autre. Ça parle de cette rencontre entre quelqu'un qui vient de l'extérieur, quelqu'un d'ici, et le maillage qui se crée.
Mm-hmm. C'est du vrai patrimoine.
C'est vraiment du vrai patrimoine. C'est absolument du vrai patrimoine, et on ne parle pas souvent de patrimoine commercial, alors qu'il a toute son importance. Et oui, ce n'est pas une église, ce n'est pas un hôtel de ville, mais ces lieux-là parlent vraiment beaucoup de nous, puis je crois que ça vaut la peine d'aller les visiter.
Alors justement, si on veut en visiter un, est-ce qu'il y a une adresse, un site Internet qui nous donne la liste des lieux à fréquenter, les lieux kitsch?
En fait,
on achète votre livre.
Ben,
on regarde la télésérie.
On consulte la série, absolument. On peut aller voir, jeter un œil sur la carte interactive, et puis on regarde la série, oui, qui est sur la chaîne Historia,
parfait,
puis qui ne fait que commencer. Alors, si vous ne l'avez pas encore vu, vous entrez cette semaine dans l'épisode 2, et puis vous continuez le voyage comme ça jusqu'à la fin janvier.
Alors, c'est présenté sur Historia, on le rappelle, les vendredis à 21h et puis en rediffusion du samedi au lundi. En ce moment, on peut voir Afrique du Nord à partir de vendredi,
exact,
le 13 décembre. Et puis ensuite, ce sera la France, pop polynésien, Grèce, Chine, Italie et rustique, comme vous l'aviez si bien dit, un peu plus tôt. Alors, ben merci. La carte interactive, comment on peut y accéder?
patrimoinekitsch.com.
OK.
Et les gens peuvent mettre là des lieux qui ne sont pas encore documentés ou ajouter de la documentation aux lieux qui figurent déjà. C'est relativement simple de fonctionner.
J'ai regardé les trois premiers épisodes et c'est sûr que je vais regarder le reste de la série.
Merci.
C'est vraiment bien fait. Il y a une recherche exhaustive et plein d'informations, des intervenants extrêmement passionnés et passionnants.
Roxane et moi, nous sommes deux fans d'archives et puis Koale, qui est le réalisateur à la série, a fait un excellent travail de tout mettre ça en forme et ensemble.
Caroline Dubuc, un grand merci d'être passée dans nos studios pour présenter Kitsch Québec. Merci.
C'est moi qui vous remercie.
Joyeux Noël.
De bonnes fêtes.